Bonjour à tous, vous le savez, ce podcast est une mine d'informations pratiques, alors j'en profite pour vous rappeler que ce week-end, nous changeons d'heure. Mais vous pouvez demander pourquoi est-ce qu'on change d'heure ? Eh bien, c'est pour faire des économies d'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Parlement européen a voté récemment l'arrêt de ce double changement horaire annuel, la date du dernier changement étant fixée pour octobre 2021. La dernière question à régler étant de savoir si on reste définitivement sur l'heure d'été ou sur l'heure d'hiver. Pour trancher cet épineux dilemme, j'aimerais rappeler quelque chose. Les fuseaux horaires sont définis à partir de Greenwich, en rapport avec l'observatoire du même nom près de Londres, et en France on est à GMT plus 1, c'est-à-dire une heure de plus. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque pendant longtemps nous avons été à la même heure que ces bouffeurs de pudding. Et c'est logique, puisqu'une bonne partie de la France est située au sud de la perfide Albion. Si nous avons changé, c'est pendant l'occupation nazie. Oui, nous sommes
l'occupation.
Encore... L'occupation nazie. Oui, nous sommes encore littéralement à l'heure allemande. À chaque fois que vous donnez l'heure à quelqu'un, vous soutenez indirectement le régime nazi. Alors en octobre 2021, votez Greenwich, qu'on en finisse enfin avec cette guerre. Sinon, vous êtes bien dans le podcast où on parle des moments chiants où on dort une heure de moins, mais aussi sur l'actualité du cinéma vue par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 23. Aujourd'hui, un programme très criard, puisque nous crierons de peur avec Us, nous crierons d'ennui avec Ma vie de John F. Donovan, et nous crierons tout court avec Dragon Ball Super Broly. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de super guerrières, à savoir Cédric, Marie et Fiona. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole. Immédiatement, on commence avec Ma vie avec John F. Donovan, écrit par Xavier Dolan et Jacob Tierney, et c'est Marie qui nous le pitch.
Jeune acteur de 21 ans, Rupert vient de publier un livre où il dévoile la correspondance qu'il a entretenue pendant des années avec John F. Donovan, un autre acteur, jusqu'à la mort de ce dernier par overdose médicamenteuse. En entretien avec une journaliste pour la promotion de son ouvrage, il revient sur cette relation épistolaire et l'impact qu'elle a eu dans leur vie respective. Ainsi, pendant que lui-même était un jeune collégien harcelé à l'école et en conflit perpétuel avec sa mère, son idole était, elle, au point culminant de sa carrière. Star dans une série télé, il était pressenti pour de gros rôles au cinéma. Mais alors que le quotidien de l'adolescent s'améliore, la trajectoire de John prend une tournure dramatique.
Fiona.
Avant de commencer cette critique, je tiens à dire que j'adore Xavier Dolan. Et Mommy fait partie de mon top 5 de mes films préférés au monde. Donc c'est avec une énorme peine que je vais défoncer ce film, qui est mauvais. On sait qu'il a eu des problèmes de montage notamment, et de tournage je ne sais pas, mais en tout cas de montage c'est sûr, au point de supprimer carrément le personnage que devait jouer Jessica Chastain du film.
En fait, le premier montage du film faisait plus de 4 heures a priori, et il a fallu vraiment sacrifier des moments pour...
Tous les films, c'est comme
ça. Mais là, apparemment, c'était encore plus long, en fait. Et bon, bref, il y a eu plein de problèmes, sans doute. Malheureusement, il y a un résultat final que nous, on voit, et qui est très mauvais. Alors, on va parler scénario, et pour moi, le principal problème parmi tous les problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce film. Il n'y a pas vraiment d'histoire et vraiment pas d'enjeu. Et surtout, on essaye de nous faire croire qu'il y a ce lien et que tout le film est basé sur cette relation épistolaire entre Rupert et John. Sauf que, en fait, si on enlève cette relation épistolaire, ça ne change quasiment rien.
Marie.
Effectivement, la relation épistolaire est finalement assez superficielle dans le film, alors que quand on a l'impression qu'elle est pourtant au cœur de l'histoire, mais on pourrait l'enlever, ça ne changerait rien. Le seul moment où elle pourrait vraiment être tirée jusqu'au bout, c'est à un moment très fort dans le film, la relation, cet échange de lettres est dévoilé au public, alors même que l'homosexualité de l'acteur John vient d'être révélée, et il est obligé... Ça fait scandale et il est obligé d'aller sur des plateaux télé pour démentir cette correspondance avec un enfant parce que ça pourrait vraiment nuire à sa carrière. Et à ce moment-là, le gamin est vraiment dévasté d'être publiquement ghosté, c'est terrible. Et il dit à sa mère, il rentre chez lui, il arrache tous les posters de sa chambre, genre c'est fini, je serai plus jamais fan de John Donovan. Il dit à sa mère, mais tu te rends pas compte déjà que je me faisais harceler à l'école, mais alors là, je vais me faire défoncer. Et... il n'y a jamais de suite à ce truc-là.
C'était... Ah oui. Non, mais surtout, là où je suis d'accord avec toi, c'est que surtout, moi, après cette scène où il est obligé d'aller sur un talk show américain, on le voit dire « oui, j'ai fait ça », puis le problème, c'est que j'ai l'impression que cette émission se passe très très bien. En plus, d'ailleurs, elle est dans la bande-annonce, et on voit, et là, il rigole, il plaisante et tout. Scène d'après, il y a son agent qui le vire. Mais je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu vires
son agent le vire parce que justement il a manqué de sincérité. Elle sait qu'il y a eu cet échange épistolaire. Et
oui, mais le but d'un agent, c'est quand même que son poulain il fasse des films et tout. Enfin, pour moi, ça me paraît complètement. C'est une trahison vraiment de son agent, quoi. Fiona.
Justement, son agent, c'est un personnage, pas comme tous les personnages, mais ça, j'aimerais bien qu'on y revienne après sur les problèmes de personnages qui n'ont pas de caractérisation précise. C'est le cas de l'agent. Mais pour terminer sur. Poursuivre sur cette relation épistolaire qui n'a pas d'impact, justement, la pédophilie n'est pas évoquée du tout. Enfin, on n'en parle pas. Et pour moi, c'était le problème qui était censé être soulevé avec le fait de dire au moment où l'homosexualité de l'acteur est révélée au même moment qu'une relation épistolaire avec un petit garçon de 11 ans, malheureusement, les gens font des amalgames et disent « Oh mon Dieu, homosexuel, enfant, il est aussi pédophile. » Et en fait, on n'en parle pas. Donc du coup, cette relation, même pour sa carrière, je ne comprends pas en quoi elle pourrait lui nuire si on n'en parle pas.
Bah, attends, c'est juste un peu bizarre quand même d'apprendre que quelqu'un, un acteur hyper connu, entreprend relation épistolaire avec un gamin de 11 ans.
Oui, mais
de toute façon, quoi que tu fasses avec un gamin de 11 ans, c'est chelou.
Oui, ça peut être chelou, mais en même temps, on ne voit pas le contenu de ses lettres.
Et ça, c'est un énorme manque.
Et c'est un énorme manque parce que apparemment, de tout ce qu'on peut voir, c'est très clean, enfin, c'est très respectueux et c'est son confident et il lui répond, il lui donne des conseils aussi pour jouer. Alors oui, c'est un peu bizarre, mais après tu peux te dire, waouh, c'est un super mentor. Quoi.
Ouais, mais alors justement, c'est pour moi un des gros points noirs du film, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans sa lettre, on n'a que la version du gamin. De toute façon, ce film, faut pas oublier que le mec en train de raconter son livre que la journaliste a pas lu, parce qu'on a oublié de dire que le film commence pour moi de manière extrêmement cliché, avec la journaliste qui dit « Ah, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, c'est un bouquin de seconde zone, moi je suis une grande reportrice de guerre, tout ça. Non, j'ai pas eu ton bouquin, je m'en fous », puis plus le film passe, puis il se dit « Oh mon Dieu, je suis incroyablement, c'est touché ». Mais tout ce qu'il raconte, c'est sa version. Et ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que John Newman, il écrivait des lettres pour lui raconter ses sorties gays où il se faisait des mecs dans des toilettes. D'où est-ce qu'il connaît ça ?
Dans sa version, c'est ce que dit le narrateur, enfin Rupert. Il dit il mettait pas des mots qu'un enfant de 11 ans pouvait pas comprendre, etc. Et c'est plus tard que j'ai un peu compris ce que ça voulait dire, etc., soi-disant. Mais pareil, ça n'a pas d'impact, ça ne sert à rien. Enfin, rien
ça a un tout petit impact, parce que de un, il est prêt... Là où Rupert fait une énorme erreur, c'est qu'il fait un exposé en classe sur un secret. C'est un peu débile, mon grand, alors qu'on dit « oui, votre fils est un génie », bah clairement pas, hein, puisque t'es en train de balancer ton secret qui pourrait te causer beaucoup de problèmes. Et puis d'autres, le mec se fait virer, John Newman, et puis il pète les plombs à cause, entre autres, de la révélation de son homosexualité et de sa correspondance. Marie.
Oui, mais justement, pour poursuivre aussi sur ces lettres, c'est vrai que... donc on dit plusieurs fois que ces lettres, c'est voilà, des conseils d'acteurs, ils racontent ses avant-premières, ils racontent ses tournages. En fait, si on résume, c'est complètement insipide. Dire que quel est l'intérêt, 20 ans plus tard, de publier ces lettres, ou 10 ans plus tard, de publier ces lettres sur un acteur de seconde zone qui est mort et tout le monde s'en fout.
Mais en fait,
il n'y a aucune révélation. Enfin, mais même, tu vois, la logique de Rupert, qui aujourd'hui est adulte et publie ses lettres, il publie ses lettres, c'est un peu un livre choc, révélation. Bah, si on a bien tout suivi, il y a zéro révélation dans ces lettres où John Donovan juste... il raconte un petit peu son quotidien d'acteur, mais de manière extrêmement superficielle.
Oui, mais ça me paraît complètement logique. N'oublie pas que le mec, c'est un acteur qui essaye de percer. S'il a un moyen de se faire connaître, il va le faire. D'ailleurs,
c'est ce que dit la journaliste. Elle dit c'est un acteur de seconde zone. S'il publie un livre aujourd'hui, il remue la vase juste pour se faire voir. Et t'as envie de dire, effectivement, c'est le cas.
Ouais.
Mais c'est jamais vraiment démenti. C'est ça qui est difficile.
Non, oui, c'est jamais démenti. Et je pense que l'intention là, de l'auteur-réalisateur, c'est l'inverse. Il dit non, ces lettres ont une importance. Et d'ailleurs, c'était un gros warning. Quand t'es obligé de faire dire à tes personnages, écoute, non, mon histoire est intéressante, c'est un warning. Tu devrais pas avoir à le dire. Et en fait, il y a un passage donc, pour expliquer où elle a l'air de s'en foutre. Et lui, la journaliste. Et du coup, Rupert, adulte, lui dit vous voyez ça comme des first world problèmes.
Des problèmes de petits riches.
Et donc c'est pas intéressant, et donc ça parle à personne, ça ne vaut pas la peine d'être raconté, et il fait tout un plaidoyer sur le dire si, c'est universel, parce que ça parle d'homophobie, ça parle d'amour, ça parle de plein de choses qui sont communes à tout le monde, et donc ça vaut la peine d'être raconté, et ça, c'est pas parce que c'est des riches qu'ils n'ont pas le droit de ressentir des choses, etc. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce laïus, seulement dans ce film là t'as vraiment l'impression que c'est Xavier Dolan qui s'adresse à toi en disant « Oui, tu vas trouver que mon film, il parle d'un acteur qui a son coming out forcé et du coup, c'est pas facile pour lui, mais bon, il est riche et célèbre, donc on s'en fout. » Bah non, on s'en fout pas. Mais non, on s'en fout pas du moment que tu nous montres qu'on s'en fout pas. Et là, le problème, c'est que tu nous le montres pas, tu nous le dis. Et c'est, ça fonctionne pas.
Je suis d'accord, c'est pas parce qu'un personnage d'un film remarque quelque chose de stupide que ça en fait quelque chose de moins stupide, hein. Donc ça, pour moi, je suis d'accord avec toi, ça ne marche pas du tout. Marie.
Mais effectivement, je suis d'accord, je trouve que ce film aurait mérité plus de finesse, et là je trouve que c'est pour moi une erreur scénaristique que de devoir délivrer la morale, le message du film de manière presque pédagogique. Je veux dire, le mec te raconte à l'écran, le personnage principal t'explique pourquoi il faut regarder ce film jusqu'au bout, et je trouve ça vraiment dommage parce que on le comprend, en fait. Enfin, si on avait enlevé tout ça, on aurait compris. Enfin, je pense.
On aurait compris, mais en même temps, on l'aurait pas ressenti, je trouve.
Parce que mon avis principal quand même sur ce film, c'est qu'il y a deux histoires en une. C'est que d'un côté, on a l'histoire de ce gamin qui est seul avec sa mère, qui veut être acteur, qui se fait harceler à l'école. Tout le monde lui dit « Ouais, t'es qu'une tapette, tu seras jamais comédien. » C'est dur pour lui.
Je t'arrête, mais en fait, il avait raison. Hein. Le mec, il le harcèle. Il a vraiment fini homosexuel. Hein. Donc, est-ce que c'était vraiment des insultes?
Bon, bah oui, dans
selon qui se fait tabasser. Avec son langage, oui, mais avec un coup de poing dans la gueule, oui.
Voilà, exactement. Donc, cette histoire-là, bon, elle est intéressante. Mais moi, j'ai trouvé que l'histoire de John F. Donovan était vraiment géniale. Enfin, j'avais envie qu'on prenne cette histoire et qu'on en fasse un film entier. Un mec qui est acteur, qui est adulé et qui aujourd'hui est une superstar, mais il sait que sa sexualité ne doit surtout pas être révélée parce que ça pourrait nuire à sa carrière, mais donc il doit choisir finalement entre son bonheur et sa carrière. Je trouve que c'est un sujet très fort parce que des acteurs homosexuels dans l'industrie du cinéma qui ont dû taire leur homosexualité jusqu'au bout, il y en a eu des centaines voire des milliers, et ça en a certainement brisé plus d'un, et je trouvais que ça aurait vraiment mérité un film à part entière.
Alors moi, oui, je suis d'accord. Si ça, mais pas en 2007. L'intrigue se passe
En 2007.
L'intrigue se passe en 2007 de John S. Donovan. Et pardon, enfin peut-être que je me trompe, mais en 2007, je pense que l'homosexualité est déjà trop acceptée.
Trop.
Mais ça aurait. Non,
mais par rapport à ce qu'il veut faire, je sais pas.
Peut-être qu'il aurait été intéressant de le faire aujourd'hui et de dire c'est encore un problème aujourd'hui.
Voilà, c'est encore un problème. Mais là, du coup, j'avais l'impression que. Alors peut-être que c'était moi qui ai aussi une vision erronée du coup de l'industrie, mais que du coup il aurait fallu le faire pour que vraiment sa carrière soit finie, il aurait fallu le faire dans les années 80 ou quelque chose comme ça. Mais là le problème en plus, c'est que c'est pas vraiment un problème en fait.
Oui,
pour sa carrière.
Il se crée un problème tout seul parce qu'il n'est pas viré pour ça.
Il n'est pas viré, après il y a des gens qui le regardent, etc. Bon, il fait son coming out forcé et c'est ça qui est emmerdant, forcément. Mais c'est pas un problème pour sa carrière. Il est encore invité au talk show, on sent qu'il va pouvoir retourner dans plein de films, ce type.
Non mais oui, là où je suis d'accord avec toi, justement, c'est la mauvaise période. Parce que j'ai l'impression que la morale de ce film, c'est pas parce qu'on vit dans un monde où c'est socialement admis d'être homosexuel, c'est pas pour ça que ton coming out est plus facile à faire. Mais comme tu dis, pour rajouter du conflit et de l'enjeu, comme tu dis, il aurait fallu faire ce film dans les années 80. Je veux dire, moi je prends un acteur aujourd'hui ultra connu qui présente à César, qui est Neil Patrick Harris, qui est un homosexuel totalement assumé, mais il n'a aucun problème à trouver des rôles et il tourne très bien. Je veux dire, on vit dans une période où c'est plus. Enfin, j'ai l'impression, après, que c'est plus vraiment un problème. C'est vrai que c'est une question.
Ça dépend beaucoup de l'image publique que tu as en tant qu'acteur et de ta fanbase. Hein.
Justement, en fait, là, je voudrais rebondir. Dans son image publique, dans le film, il est marié avec son amour de jeunesse et du coup, il y a un peu cette romance idyllique. Pourquoi pas ? Mais en plus, Kit Harington, c'est quand même un miné, on peut dire ce qu'on veut, même s'il est baraqué, etc. Et d'ailleurs, dans le film, il joue dans une série pour ados, minettes, etc. Et c'est pas Schwarzenegger. Si c'était Schwarzy qui faisait son coming out, là, effectivement, tu te dis, on va peut-être plus l'engager pour des films de guerre. Là, il joue déjà des minés avec des rôles de vampires. Enfin, c'est Twilight.
Mais il me semble, alors j'ai pas vu, mais on va parler de la série Sense8, où il y a un personnage comme ça qui joue des rôles de bodybuilder mexicain et qui est obligé de faire son coming out. Et ça met vraiment un coup de frein à sa carrière.
Ce qui est plus judicieux, là, c'est avec ce personnage-là, on aurait des gamines très déçues, c'est sûr.
Oui.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il cache son homosexualité au public pour sa carrière, mais il le cache aussi à sa famille. C'est compliqué. Donc, je trouve que l'idée d'un coming out forcé, parce que t'es célèbre, du coup, les gens se croient autorisés à dévoiler ta vie sexuelle alors que c'est totalement privé. Ça a des répercussions sur ta vie, mais ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est, je trouve que c'est fort. Ça raconte des choses sur l'industrie du cinéma, le star system, où on te dépossède de ce qui t'appartient le plus, c'est ton intimité.
Je suis d'accord, et d'ailleurs, c'est quand même un peu, c'est une réplique que j'ai bien aimée, pour le coup, avant qu'il casse la gueule un des types du tournage, là, qui dit bonne journée, donc je te raconte ton week-end, et qui, quand il le frappe, il lui dit non, t'es pas mon ami, c'est pas parce que je te raconte mon week-end que t'es mon ami, parce que je dois te le raconter, sinon je passe pour un connard. Enfin, il n'y a pas cette frontière de, comme c'est un personnage public, s'il veut pas que tout le monde dise ouais, enfin bon, John F. Donovan, c'est vraiment un sale type, hein. Il est obligé d'être over gentil. Et ça c'est un sujet qui aurait pu être intéressant, effectivement, la célébrité. J'avais vu une interview que j'avais beaucoup aimé, rien à voir, de Florence Foresti, mais qui disait que c'était pas une personne très sociable. Et que du coup, ben, les gens, quand ils la voient, elle veut pas être emmerdée dans la rue, et du coup, ben, non, elle est pas très sympathique quand on la rencontre. Et moi, je comprends tout à fait ça, et que c'est intéressant à traiter, mais pareil, je trouve que c'est pas traité vraiment. C'est pas le sale.
Peut-être justement parce qu'il y a deux films en un, et que si on s'était dit, ok, on raconte à fond l'histoire de cet acteur, ça aurait pu être. C'est des sujets qui auraient pu être creusés.
Alors, c'est vrai, mais comme disait Alain Delon, soyez désagréable tout de suite, comme ça on pourra pas dire c'est le succès qui vous a changé. C'est ça qu'il aurait dû faire. Et autre part, j'aimerais parler de deux scènes, moi, que personnellement j'ai trouvé ridicule. Et vraiment, là, c'est ce que je reproche au film, c'est d'essayer de tirer l'arme. C'est la scène où le Rupert fugue et Nathalie Portman, parenthèse, mais qui peut quitter Nathalie Portman? Enfin, bon, bref. Elle le poursuit, il y a cette scène hyper bizarre avec la prof qui vient l'avoir fait, oui, votre fils a fugué, mais il se trouve que j'ai sa copie, ça vous dirait de la lire? Et ensuite, elle va le chercher, puis il y a une musique entraînante et il court sous la pluie, ils vont se serrer dans les bras.
Là, c'est vraiment un cliché, je sais pas ce qu'il lui a pris.
C'était ridicule, quoi.
C'est vraiment très chewing-gum.
J'ai pleuré à ce moment-là. Oh, oui.
Déçois, là, va rejoindre l'Amérique.
J'ai trouvé. Non, ça m'a vachement touché.
Alors, est-ce que.
Chante.
De quoi?
Lady Gaga, là.
Non, ah oui, Star is Born. Non, mais et l'autre scène aussi que j'ai pas compris, c'est vraiment, je crois que c'est le moment où John écrit sa dernière lettre. D'ailleurs, pourquoi il écrit en vert, ça, je n'ai pas compris. Il écrit sa dernière lettre et dans un petit restaurant, et il y a un vieux qui tombe de nulle part.
C'est une scène
qui,
vraiment terrible.
Qui est censé représenter, je sais pas, la Dieu sagesse, non, Dieu, je ne sais pas. Et c'est Narnia, le mec. Et puis il vient et puis t'explique, non, mais tu vois, la vie, c'est comme ça.
Tu n'as volé la place de personne. Alors, c'est un grand discours. Et surtout, moi, ce que je reproche à cette scène, bon, c'est totalement cliché, ça s'intègre très mal dans le scénario. Mais cette scène est introduite en disant oui, alors John il aimait beaucoup aller dans les cuisines d'un restaurant pour écrire ses lettres, et c'est dommage parce que si on l'avait vu 2-3 fois dans les cuisines de ce restaurant pourri en train d'écrire ses lettres, on aurait quand même plus accepté cette apparition divine qui vient lui dire non, tu n'as volé la place de personne. Alors, mais en fait,
c'était peut-être dans la version de 4 heures,
peut-être, mais globalement, j'ai trouvé cette scène me semble être symptomatique du manque de tissage des intrigues. C'est pas l'ensemble, il y a plein de choses bien, il y a vraiment plein de choses qui m'ont beaucoup touchée, mais en fait, comme tout arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est pas homogène, il y a un côté qui n'est pas organique, finalement. Voilà.
Et donc, non, justement, sur cette scène, pour moi, c'est symptomatique aussi de, en fait, ce film, ce que c'est Xavier Dolan qui fait un film sur Xavier Dolan. Ouais. À savoir que quand il était petit, il adorait, il écrivait plein de lettres à plein d'acteurs qu'il adorait. Et je pense que c'est son rêve qu'on lui réponde. Il rêvait d'une relation épistolaire. Enfin, c'est son fantasme. Et pourquoi pas, moi, de le faire en film. Mais et pourquoi je dis que c'est symptomatique? Parce que cet acteur qui vient en apparition divine lui donner des conseils dans les cuisines du restaurant, il est interprété par Michael Gambon. Et Michael Gambon, c'est qui? C'est Dumbledore.
Oui.
Et Xavier Dolan est un immense fan de Harry Potter. Il a un tatouage de Dumbledore sur le bras.
Ah ouais.
Non, une citation, et il a un autre tatouage de. Enfin, il a plein de références, il a au moins 5 tatouages sur Harry Potter sur le corps.
C'est triste.
Et non, c'est pas triste, chacun ses références. Et ça fait
un Fiona, t'en as combien, toi?
J'en ai pas encore, j'y pense. Non, n'exagérons pas. Mais en tout cas, il adore. Moi, c'est aussi peut-être pour ça que j'adore, on adore tous les deux Harry Potter. On est fait l'un pour l'autre.
Et bref.
Bref, pardon. Je t'aime quand même, Xavier. Je suis désolée de dire du mal de ton film. Tout ça pour dire que. Ouais, ça aussi, on le sent qu'il pouvait pas couper Dumbledore de son film. Enfin, c'est trop important pour lui.
Jessica Chastain, oui.
Alors que Jessica Chastain, si elle avait joué dans Harry Potter, on en parlerait. Mais je sais pas, on sent que pareil, cette question d'homosexualité, c'est encore les rapports à la mère, toujours et enfin. Xavier. On dirait qu'il se réconcilie enfin avec sa mère. Il va au bout de sa démarche de tous ses films jusque-là, en lui disant enfin je t'aime. Alors qu'il a encore jamais fait jusque-là, mais donc dire ok, mais si tu nous racontes une histoire là-dedans, tu peux pas juste nous dire le harcèlement scolaire, pareil, c'est des petits bouts de sa vie, mais ça fait pas un film en entier, ou pas comme ça en tout cas.
Et puis je pense qu'on va parler pour moi de la dernière scène du film, qui est pour moi symptomatique, là, on va revenir sur ce mot, où c'est vraiment le schéma classique du la journaliste qui arrive, qui a pas envie d'écouter ça, et puis à la fin, ah, j'ai appris une telle bonne leçon et grande leçon sur la vie, et puis il passe Bittersweet Symphony, et puis elle lève les yeux, c'est en disant, hi, ma vie ne sera plus jamais la même maintenant. Mais en quoi? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie?
Moi, je comprends pas son revirement. Je comprends qu'après son petit laïus sur mon histoire est importante, elle décide de rester l'écouter, on va dire, et de recommencer.
Elle a quand même un avion à prendre, et c'est le plus fort enjeu du film. Hein, quand même,
ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. Et en plus, on sait pas pourquoi ils sont à Prague, mais bon. Qu'elle accepte de continuer l'interview après son petit laïus, d'accord, mais qu'ensuite, alors qu'il continue de raconter l'histoire, elle lui dit non, mais c'est bon, je peux rater mon avion, c'est pas grave. Je dis, bah, je comprends pas son revirement, je comprends pas ce qu'il a fait rester.
Exactement, je suis d'accord.
Je vois pas ce qu'il y a de passionnant, je vois pas ce qu'il y a en plus de plus passionnant à partir du moment où elle décide de lui accorder une seconde chance, on va dire. Je vois pas ce qui change dans son récit, qui la convainc, quoi, je comprends pas. Elle l'aime, quoi. Mais pareil, c'est une espèce de déclaration d'amour à lui-même, quoi.
Bon, allez, on s'arrête là sur ce film.
Attends, il y a les personnages aussi.
Ah bon, bah alors vas-y, alors.
Non, mais il y a quand même des personnages qui, je trouve, manquent tous de construction. Enfin, on les voit, et l'agent est particulièrement symptomatique.
Donc, c'est le mot d'aujourd'hui, oui.
Parce que d'un coup, elle lui dit, non, t'as pas été sincère, je te vire. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Enfin, quel agent fait ça? On l'a jamais vu, on l'a vu deux fois, il avait l'air très pro. On aurait dit justement que c'est elle qui orchestrait l'émission de talk show en lui disant, dis ça. Enfin, on l'a pas vu, mais c'est ce qu'on
ressent. Entendre,
bah, elle est très fière de lui. Ouais.
Et du coup, on comprend pas vraiment son revirement. La mère de Donovan, on montre qu'elle est... un peu alcoolique.
Un peu.
Beaucoup, non, mais beaucoup alcoolique. Mais enfin, surtout qu'on dirait qu'elle sait des choses. Elle dit, tu vas voir quelqu'un avant même qu'il y ait les révélations. Elle fait des allusions sur son mariage. Toutes ces relations-là de personnages.
Oui, John est malade aussi. À un moment, apprend qu'il est mort. Mais c'est con, personne ne savait. Oui, il avait une maladie.
Il avait un problème aux oreilles. Il en a parlé.
Oui, pareil. Parce qu'il y a une scène où
il est mort d'une
John petite, pète un câble parce qu'il a des acouphènes. Et il a des acouphènes pile le jour où quelqu'un vient lui parler et lui dire une grosse révélation sur sa vie. C'est dommage parce que là encore, si on nous l'avait montré une ou deux fois, avoir des acouphènes, des problèmes.
Je peux dire un truc.
Mais regarde la version de 4 heures.
Non, attends, il faut que je dise, ça va te faire rire. Non, mais pour le coup. Je dois le dire, c'est une histoire de problème aux oreilles qui est encore moins bien traitée que dans The Star Is Born. Il fallait le faire.
Ouais, effectivement, c'était drôle. Tour final sur ce film, Marie.
Oui, moi, j'ai quand même bien aimé ce film.
Et surtout, qu'est-ce qui t'a touché?
Ce qui m'a touché, c'est l'histoire de John F. Donovan. C'est l'histoire de.
C'est bien, c'est le film.
C'est l'histoire de ce gamin avec sa mère. En fait, c'est des bouts d'histoire séparément qui m'ont touché. Et je trouve que l'ensemble n'est pas très homogène. Et c'est le film en lui-même. Et ça, la difficulté qu'a eu Xavier Dolan à le faire, à le sortir, parce que ce film n'est aujourd'hui distribué qu'en France, parce qu'il s'est fait lâcher par son distributeur québécois, qui m'a touché. Et ça, en fait, rien que pour ça, je pense qu'il faut aller voir ce film pour soutenir ce mec qui a quand même osé dire des choses sur l'industrie du cinéma, sur une certaine hypocrisie dans le milieu, et qui s'est pris un retour de bâton vertigineux. Et voilà, je pense qu'il faut aller voir ce film pour soutenir ce réalisateur.
Très bien, Fiona.
Bon, je pense que ce réalisateur n'a pas besoin de ce film pour être soutenu. Je pense qu'il arrivera quand même à en faire d'autres.
Il en a déjà fait un.
Parce que c'est un génie. Ouais, voilà, parce que c'est un génie, que je l'adore vraiment. Que dans ce film-là, il se parodie lui-même à plein d'égards au niveau scénario, mais aussi au niveau de la mise en scène. Mais ça nous concerne moins. Je suis d'accord, des scènes. Moi, j'ai trouvé certaines scènes très belles. Notamment, justement, la scène où il est en famille et qu'elle boit, etc. Je trouve que c'est une jolie scène, mais qui n'a rien à faire dans ce film.
C'est un peu Défaite de famille d'Orelsan, mais sans l'humour.
Exactement. Ouais, mais c'est des belles scènes, mais j'ai envie de dire, mais on dirait un patchwork de films, et donnez-moi les films qui vont avec. Parce que là, je les ai pas. Donc, du coup, ça ne marche pas. Et ben, en plus, la bande-annonce, normalement, je ne les vois jamais, et j'ai vu cette bande-annonce-là. Tout est lié sur cette relation épistolaire, et c'est, je pense, le but de ce film. Et ben, cette relation épistolaire, tu l'enlèves du film, je le redis, ça ne change rien pour les personnages. Quasiment.
Alors moi c'était mon premier Dolan, pour être honnête. J'ai trouvé ça catastrophique, comme un peu tout le monde ici sauf toi Marie. Et je voudrais revenir sur quelque chose quand même à la fin, c'est qu'il n'attache pas son casque. Et ça je déteste les personnages des films qui n'attachent pas leur casque.
Sur leur scooter ?
Oui, sur leur scooter. Quel intérêt de mettre un casque si tu ne l'attaches pas ? Et rien que pour ça, n'allez pas voir le film. Voilà. On termine, enfin on enchaîne plutôt, avec Dragon Ball Super Broly, écrit par le maître incontesté de mon adolescence, Akira Toriyama lui-même. Et c'est Fiona qui nous le pitch.
Vegeta, la planète des Saiyans, est soumise...
Dans des Saiyans, des Saiyans.
Ouais, je sais pas comment on dit, j'ai vu plein de versions.
Non, Saiyans.
Saiyans, ok, très bien. Vegeta, la planète des Saiyans, est soumise à la dictature de Freezer. Le roi Vegeta, souverain de la planète du même nom, attend la sortie de son fils de sa capsule de développement avec impatience. Sûr qu'il sera assez puissant pour les libérer de l'emprise de leur oppresseur. Mais voilà que Vegeta découvre que Broly, l'enfant de Paragus, un de ses sous-officiers, possède une puissance de combat hors du commun, bien plus importante que celle de son propre fils. Pour s'assurer que Vegeta Junior sera le plus fort des Saiyans, le roi envoie Broly sur une planète inhospitalière. Coincé sur cette planète, Paragus va entraîner Broly, déjà surpuissant, pour qu'il puisse un jour prendre sa revanche sur le roi Vegeta. Environ 30 ans plus tard, il s'est passé toutes les aventures de Dragon Ball, et si vous ne les avez pas vues ou lues, vous êtes baisés. Mais vous pouvez comprendre que la paix est revenue sur Terre et que le prince Vegeta y vit désormais sur une île paradisiaque où il s'amuse à se battre non-stop avec Sangoku pour devenir encore plus fort juste au cas où. Et ils font bien de s'entraîner car le au cas où arrive. Broly et son père sont secourus par l'armée de Freezer. Et Freezer voit en Broly l'arme parfaite. Mais avant de l'utiliser, il a une mission beaucoup plus importante. Retrouver la 7e Dragon Ball qui permet d'invoquer le dragon Shenron, une sorte de génie d'Aladin du pauvre, puisqu'il ne peut réaliser qu'un seul vœu. Et Freezer a un vœu à réaliser. Il souhaite gagner 5 cm parce qu'il se trouve trop petit. Ainsi, il va dans les plaines glacées pour récupérer la 7e Dragon Ball où il tombe sur Sangoku et Vegeta venus pour la même chose. L'occasion fait le larron, Freddy envoie Broly au combat et... Plus tard, une des soldats de Freezer qui s'est liée d'amitié avec Broly utilise la 7e Dragon Ball pour envoyer Broly sur sa planète de merde afin qu'il ne périsse pas au combat. Vegeta et Sangoku laissent partir Freezer tranquillou bilou, tout le monde rentre chez soi et Sangoku passe dire coucou à Broly sur sa planète. Fin. Je vous ai raconté tout le film, c'était pas un pitch, hein, c'était le scénario complet.
C'est pas tortue géniale.
Non, il manque beaucoup de
choses. Je regrette pas de pas l'avoir vu.
Alors comme toi qui adore Dolan, ça va être très difficile pour moi de parler de ce film parce que Dragon Ball c'est toute mon adolescence, toute mon enfance vraiment. Avec mes copains en CM2 on s'est fait un pacte que si un jour on avait un fils on l'appellerait Sangoku. Voilà, c'est pour vous dire à quel point Dragon Ball est important dans ma vie. Et pourtant j'ai trouvé ça nul à chier quoi. Mais vraiment je me suis ennuyé d'un ennui profond. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai vieilli et parce que Dragon Ball s'adresse maintenant à une nouvelle génération, parce que je sais qu'il cartonne en salle, mais ce film là aucun intérêt. Déjà pour commencer, comme tu l'as dit Fiona, les 30 premières minutes sont la nouvelle, enfin c'est une espèce de reboot de l'histoire de Broly, mais tout ce qu'on connaît que Bardock avec le père de Sangoku, tout ça on l'a déjà vu. On sait que Freezer a soumis les Saiyans, on sait que Bardock a envoyé son fils sur la Terre, on connaît tout ça. Et vu que c'est un film qui s'adresse aux fans, je n'ai pas compris pourquoi il s'amuse à nous remontrer tout ce qu'on sait déjà, et surtout aussi longtemps. Ça veut dire une demi-heure d'introduction avant qu'il y ait enfin les histoires qui commencent avec un petit H. Hein.
Très petit H, parce que en fait, rien n'a de sens, et comme j'essaie de le montrer dans le synopsis, la moitié du film, qui est quand même le combat, c'est vraiment la moitié du film, j'ai regardé, le moment du combat commence à 50 minutes, le film dure 1h40. En plus, ils ne se battent pour aucun enjeu.
Bah, c'est probablement sauver l'univers, parce que si Broly dépasse sa puissance, il va tuer tout le monde.
C'est vraiment l'occasion qui fait le larron, il lui dit « Ah, bah tu vas être une arme super, on va chercher la 7e Dragon Ball pour que j'ai 5 cm de plus. Oh tiens, ils sont là, bah tiens, casse-leur la gueule. » Mais ça n'a aucun importance en plus, parce qu'il a déjà la Dragon Ball, il l'a récupérée au début du combat. Donc il peut se barrer avec, ça n'a... Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Bah, dans ce combat de 50 minutes, il n'y a pas d'enjeu.
C'est vrai que Freezer, il obtient les 7 Dragon Ball très vite. Au lieu de regarder le combat, il pourrait se barrer et faire son vœu. C'est vrai
il veut savoir qui est le plus fort, c'est ça l'enjeu.
Oui, je sais pas trop si c'est vraiment ça l'enjeu.
Mais en plus, il veut qu'il tue Vegeta, mais il dit laisse-moi Sangoku. Comme si Freezer pouvait le battre. Bref.
Ah si, non, mais parce que tu n'as pas su. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que moi je me suis arrêté à Dragon Ball Z, c'est-à-dire à la fin de l'arc Boo. Dragon Ball GT n'est pas canon, c'est-à-dire que c'est comme si ça n'avait jamais existé, mais il y a eu Dragon Ball Super entre les deux. Or, Freezer a ressuscité, puisque comme tu peux voir, il est vivant, parce que ce film est canon, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la suite logique de Dragon Ball. Et alors, on m'a résumé sur Internet, hein, parce que j'ai pas regardé Dragon Ball Super, Freezer a ressuscité et il a une nouvelle transformation qu'on voit dans le film, où il se transforme en Golden Freezer, où tu vois qu'il est doré. Donc sa puissance a énormément augmenté, donc il a peut-être une chance contre Son Goku, peut-être.
Très bien, mais peu importe, dans le film, dans un film comme ça, moi je connais pas mal Dragon Ball, mais je suis pas une fan absolue, donc je connaissais toutes les histoires, etc. Et j'aimais bien la première partie, même si on me re-racontait, je trouvais que l'histoire de me dire que Vegeta veuille envoyer Broly ailleurs parce que il voulait pas de concurrence pour son propre fils, je me dis qu'est-ce qui va découler de ça, c'est intéressant. Pas du tout traité.
Un tout petit peu en fait. Ils ont refait la genèse de Broly. La genèse Broly, c'est-à-dire dans le film qui n'était pas canon, parce qu'à la base Broly n'est pas un personnage créé par Akira Toriyama. On apprend qu'en fait Broly était dans le même berceau à côté de Son Goku, et en fait les cris de Son Goku passait son temps à chialer, donc ça a traumatisé Broly, et c'est pour ça que Broly ne sait dire qu'un seul mot, c'est Kakaroto, qui est le nom Saiyan de Son Goku, et c'est l'arc qu'on voit qui se passe pendant les 7 jours de Cell. Il ne fait qu'essayer de l'affronter. Là, tout ça n'a jamais existé, donc Son Goku et Broly ne sont jamais rencontrés, donc ils se rencontrent pour la première fois, et il n'a même plus ce traumatisme. Et comment il s'est dit, mais comment est-ce que je vais créer Broly, pourquoi est-ce qu'il n'est jamais arrivé pendant ces 30 ans qui s'est passé, c'est-à-dire toute l'histoire de Dragon Ball, a trouvé cette astuce, c'est-à-dire que, justement ce que tu parlais, le prince Vegeta refuse que son fils soit inférieur, et donc il l'a envoyé, donc c'est très, puisque toute l'histoire est basée là-dessus, sur l'exil de Broly et de son père.
Et alors, justement, Broly et son père, alors ils disent, oui, son père l'a un peu contrôlé, comme il est incontrôlable, Broly,
ah oui.
C'est ridicule, il lui a mis un espèce de collier qui peut lui foutre des écrouches.
Un collier pour chien, oui.
Sauf que, alors, outre le fait que la copine de Broly récupère la télécommande en une seconde, juste en disant, ah oui, d'accord, hop, elle lui pique la télécommande, elle fait, c'est bon, t'es libre, j'ai trouvé la télécommande. Outre ça qui est déjà ridicule.
Il en a construit qu'une, déjà, de télécommande.
Oui.
Ce qui est pas malin.
Non, mais rien n'est malin parce que c'est Broly, il est hyper puissant, il détruit littéralement des montagnes. Mais un collier, il peut pas l'arracher, apparemment.
Mais non, parce que dès qu'il essaye, il appuie, mais bon, c'est vrai qu'il, qu'il doit bien dormir.
Il dort jamais, moment, voilà. C'est... Non, mais puis c'est ridicule. Bon, voilà, et puis.
Et surtout, la sacoche.
À cause de ça, enfin, je veux dire, il se prend des torgnoles de Gogeta, etc. Mais un petit peu d'électricité. Oh non, ça chatouille.
Ah oui, le problème, c'est qu'il fait l'électricité avant qu'il devienne l'espèce de Broly insupportable. Parce que quand il voit qu'il commence à devenir. Oui, écoute, que tu chipotes. Non, là où je trouve un problème beaucoup plus grave, c'est que sa télécommande, il la tient dans une sacoche qui est beaucoup trop grande.
Non, mais tout est ridicule.
Je trouve.
À part ça, il y a aussi des personnages qui sont là.
Oui.
Juste pour.
Il n'y a pas beaucoup de personnages. Hein.
Ouais, mais je connais pas le nom de la déesse, je crois, qui est avec eux sur la planète avec Bulma.
Ah oui, avec le chien là.
Ouais.
Ouais, ça, c'est des personnages de Dragon Ball Super, je n'ai pas regardé.
C'est des espèces de dieux, mais ils sont là pour regarder. Ils sont là, et puis voilà. Donc je pense qu'ils doivent avoir une utilité pour faire d'autres films avec sur eux ou d'autres séries. Je crois que j'ai cru entendre.
Alors en fait, c'est grâce à lui que, comme tu peux voir. Son Goku se transforme en Super Saiyan, et puis après, donc d'ailleurs, il saute le Super Saiyan 3, où il a cette espèce de gros cheveux, bon, admettons. Oui, mais c'est tellement pas esthétique qu'ils ont décidé de le sauter. Donc la transformation en 4 n'existe pas parce qu'elle est dans Dragon Ball GT, donc il se transforme en rouge, et ensuite en bleu. Et en bleu, il a normalement la puissance God, c'est-à-dire il est l'équivalent du chien et du mec qu'on a vu. Je crois.
Très bien. Et pareil, quand tu veux se battre avec Broly, bon, ils sont latés l'un après l'autre, ils mettent vraiment du temps à se dire, bon, si on se battait ensemble. Mais bon,
c'est normal.
C'est dans les codes de Dragon Ball.
C'est dans les codes de Dragon Ball parce que les Saiyans sont fiers et ils veulent battre leur adversaire en un contre un.
D'accord, admettons. C'est bien que ce soit dit, mais d'accord.
Oui, mais ça, tout le monde. Tu le sais, si t'as suivi l'arc bout, tu le sais.
Tu disais qu'ils ont sauté une des transformations Saiyan
numéro 3
par manque d'esthétisme.
C'est ma théorie. Hein.
Mais
c'était très moche.
Il y a des moments dans le film où les personnages ne sont juste pas dessinés.
Oui. Ouais, ça, je me demandais justement, parce que visiblement, c'est pas un film de scénariste, mais c'est peut-être un film d'animateur.
Alors, l'animation, honnêtement,
des combats est très belle.
Est sublime.
Ouais, très très belle.
Absolument, on n'a jamais vu ça. Pour moi, c'est le Dragon Ball le plus animé que j'ai vu. La caméra tourne partout, il y a des décors incroyables et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans le film Au moment où ils vont voir Piccolo, pour ceux qui ont vu le film, où ils sont incroyablement mal dessinés.
Ils ont même plus de visage.
Et moi, je me demande si c'est pas presque un clin d'œil, parce qu'il y a eu énormément de critiques sur Dragon Ball Super, où les dessins animés sortaient trop vite et les gens avaient même pas le temps de dessiner. Si c'est un clin d'œil, on dirait rappelez-vous Dragon Ball Super quand on n'avait pas le temps de les dessiner.
C'est quand même bizarre.
Ça dure 3-4 minutes.
Oui, mais il y a quelques images à des moments où c'est pas terrible. Et je trouve que le problème de ces combats qui sont, oui, très beaux, mais ils sont très beaux pendant un quart d'heure, mais après, t'en peux plus, quoi.
On peut dire ça de n'importe quel film Marvel, non ?
Ah ouais, mais
encore c'était pas toujours beau.
50 minutes dans les films Marvel, t'as pas, je suis désolée, t'as pas
t'as
45 minutes.
Ah, franchement, ça se chronomètre.
Non-stop.
Hein. En tout cas, ça paraît très très long.
Ouais, mais c'est vraiment. C'est...
Et... Oui, mais Marvel, il s'arrange toujours pour que ce soit dans plusieurs endroits,
pardon,
plusieurs personnages.
C'est beau, mais pas tant que ça, parce qu'à un moment, ils font juste que plein de couleurs, quoi. C'est plein de couleurs et tu t'en prends.
C'est joli,
ça va tellement vite que t'arrives pas à suivre. Enfin. Moi, je suis pas retombée en enfance avec ce film, alors que pourtant, Dragon Ball tous les midis avec mes cousins. Big up à mes cousins que j'aime beaucoup. Mais...
Moi, j'ai une question pour toi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il laisse Freezer vivant. Il est quand même en train d'esclavagiser, je sais pas si ça se dit. Ouais, mais enfin, il est en train de réduire l'univers en esclavage. Tu es là, il est juste là.
Il a massacré, enfin, il a détruit. La planète des Saiyans.
C'était il y a longtemps, ça.
Oui, oui, il y a 30 ans, mais du coup, bon, il y a les 4 derniers Saiyans survivants, ils pourraient se venger un petit peu, quoi.
Mais ils l'ont déjà tué.
Parents, ils ont tout...
Oui, mais ce qu'ils disent au tout début, c'est qu'ils disent oui, Freezer nous a sauvé la vie. Apparemment, je n'ai pas encore vu, mais Dragon Ball Super, il leur sauve la vie, donc d'accord. Peut-être.
Oui,
que...
ils ont peut-être une dette, mais. Et par ailleurs, l'humour, mon Dieu, catastrophique. Il y a 3 blagues et elles sont vraiment à pleurer de tellement c'est affligeant, quoi.
Non, mais surtout, moi, ce que je reproche à ce film, outre le fait que c'est extrêmement mal rythmé, parce que comme tu dis, vraiment, le film est cassé en deux, t'as 40-50 minutes d'histoire qu'on connaît déjà, qui sont pas intéressantes, et ensuite 50 minutes de combat où là, il n'y a plus d'histoire.
Mais déjà, quand tu filmes...
Mais c'est qu'il y a énormément de ressucées. Je veux dire, il y a des choses que j'ai vues partout déjà. Tout le début, on connaît l'histoire de Bardock. D'ailleurs, ils ont enlevé ce moment... qui est mon moment quasiment préféré de Dragon Ball, où Bardock se sacrifie, enfin il tente de se sacrifier pour empêcher Freezer de détruire la planète Vegeta, et son dernier moment, il a une vision du futur où il voit que son fils va réussir à tuer Freezer. C'est magnifique. Là, ils l'ont enlevé. Bon, il y a une espèce d'ellipse où d'un seul coup,
ça aurait été
beau
parce que justement, il dit mon faible fils
exactement.
Que j'envoie sur Terre parce que c'est la seule planète où il pourra survivre, qui devient le plus fort. Bon, bref.
Alors là, ils ont refait la genèse. Là, ils l'envoient parce qu'ils sentent qu'il va se passer quelque chose et donc ils préfèrent qu'il soit pas là. Alors
oui,
que normalement, ils l'envoient parce qu'il dit il est faible. En fait, à la base, c'est même pas lui qui l'envoie parce qu'il se croit sur 2 capsules et tout. Enfin, l'OAV qui était de Bardock était vachement bien, oui. Et là ils l'ont un peu jeté aux toilettes.
J'ai le souvenir, j'avais regardé il y a très longtemps un film sur l'histoire de Trunk, où c'était Trunk contre les cyborgs.
Mm-hmm.
Et je l'ai vu ce film. Et j'ai vu,
ah, mais t'es superbe.
Il était génial.
Il est superbe. Ouais.
Après, je sais pas, maintenant j'ai envie de le revoir pour voir. Est-ce que mais j'ai l'impression qu'il y avait une histoire, quoi. Il y avait une histoire.
Ah oui, non, mais l'arc celle est extrêmement mérité parce qu'en plus il y a des remontages dans le temps.
Mais
et
dans
puis,
le film,
et puis
je parle de un film tout seul qui durait une heure et demie.
Oui, mais il me semble que c'est ça.
Et c'était vraiment super. Il chutait, il avait mal, on avait peur pour lui. Moi, c'est vrai que Trunks, c'est mon personnage préféré, je pense que c'est à cause de ce film. Mais là, ouais, j'ai pas du tout. Je suis pas replongée en enfance, je me suis ennuyée, ça criait tout le temps, pire que, comme tu me disais, que moi j'ai pas vu Mirai. Mais,
ah oui, ah oui, Cédric, tu seras ravi d'apprendre que ce n'est plus Mirai qui a la palme du film où il y a le plus de cris. Sangoku le bat largement. Mais là, c'est vrai pour dire que. Pour moi, c'est un énorme recommencement ce film, et c'est des éléments qu'on a vu énormément de fois. Et le pire, c'est comment ils battent Broly finalement. Ben, il y a Sangoku et Vegeta qui fusionnent, et ça, on l'a déjà vu. Alors, je l'ai noté, je suis allé voir sur internet. C'est dans Dragon Ball Fusion qui date de 1995. C'est-à-dire que 24 ans plus tard, ils nous refont le même coup où ils utilisaient pour battre l'espèce de méchant qui était dans le royaume des morts et qui avait aspiré toutes les âmes des méchants, et donc ça devenait Janemba, je crois qu'il s'appelait. Et ils nous le refont.
En fait, il faut choisir, je pense. Il faut choisir entre soit tu fais un film pour les fans et tu ne leur montres pas ce que tu as déjà montré et éventuellement tu rebootes pas tout. Tu fais une suite et je sais pas, tu l'alimentes de nouveaux éléments. Soit tu fais un film accessible à tout le monde où tu racontes une histoire où tout le monde peut comprendre et t'as pas besoin d'avoir les références de tous les Dragon Ball. Et là, c'est ni l'un ni l'autre.
Et à la rigueur, moi, ce que j'aimerais, si j'ai une demande pour le prochain film, parce qu'il y en a d'autres, parce que ça cartonne, j'aimerais voir ce que les fans réclament depuis 20 ans, c'est-à-dire un combat entre Gogeta et Vegeto. Oui, c'est 2 fusions de Sangoku et Vegeta, mais il y en a une qui... Enfin, Gogeta, celui qu'on a vu, c'est-à-dire c'est avec la fusion, c'est-à-dire la petite danse. Et il y en a une qui utilise des espèces de petites boucles d'oreilles qui s'appellent les Potala, je crois, et qui permet de fusionner. Et on aimerait voir un combat entre les deux, ou alors, j'ai une idée de scénariste, ils affrontent un adversaire tellement fort qu'ils sont obligés de fusionner les deux, Gogeta et Vegeta, ensemble pour l'affronter. Donc ça donnerait un super guerrier... Enfin, ce serait l'univers lui-même, quoi.
Moi, j'aime que Goten et Trunks.
Allez, on arrête là pour ce film. Fiona.
Regarder les vieux dessins animés, ça a plus de saveur et ça n'a vraiment aucun intérêt.
C'est quand même dingue que 40 ans après, voire plus, parce que je sais
40
pas.
40 ans, ouais,
c'est ça,
hein,
c'est au moins 40 ans qu'il y ait encore tout cet engouement.
C'est une fanbase, quoi. Je pense que c'est que ça qui fait que ça.
Je sais pas s'il y a beaucoup d'univers qui fonctionnent encore aussi longtemps après. Bon, il y a Star Wars, mais il y a eu quand même un gros vide.
Ouais, non, mais c'est impressionnant. Et moi, j'ai trouvé ce film catastrophique. Et je m'en veux. J'adore Dragon Ball, j'aurais adoré. Mais.
Enfin, il n'y a pas d'histoire du tout. Enfin, même rien que le fait que le combat principal ne soit justifié par rien. Et comme je disais, ouais, moi je me souviens de l'arche de Cell en règle générale et tout. Vraiment, quand on se battait contre Cell, mais c'était l'enjeu vraiment.
Cela dit, tu compares à un manga qui s'étale sur des dizaines de mangas.
Qui s'étale, mais il y a au moins 4 minutes où il fait. Oui, où il se concentre, etc. Ouais. En vrai, je pense que tu pourrais étaler beaucoup d'épisodes en.
Ben moi, je dis, n'allez pas voir ce film, mais je vous conseille un manga qui a été fait par des fans, donc il n'est absolument pas officiel, et qui s'appelle Dragon Ball Multiverse, qui est quand même assez connu dans la communauté. Et ça reprend. C'est vraiment des mecs, des fans, qui ont dessiné un nouveau Dragon Ball, qui ont dit, nous, on considère que la suite, c'est ça. Et c'est tous les personnages de Dragon Ball dans plein d'univers différents qui se réunissent pour un tournoi, et c'est largement mieux que ce qu'on a vu. On termine avec Us, écrit par Jordan Peele, et c'est Cédric qui nous le pitch.
Adelaide Wilson retourne dans sa maison d'enfance à Santa Cruz pour passer des vacances avec son mari et ses deux enfants. Mais à peine arrivée, elle est victime d'étranges coïncidences qui semblent réveiller chez elle un mystérieux traumatisme. Alors qu'elle tente de convaincre son mari que quelque chose menace leur famille, quatre étranges personnages s'introduisent chez eux. Les Wilson vont alors devoir affronter leur double maléfique, une version grotesque et pervertie d'eux-mêmes.
Fiona.
Ce film m'a pas déplu, c'est déjà bien.
Sur l'échelle de Suspiria, il est.
Ah non, mais attends, Suspiria, on est quand même loin. Je trouvais que l'épouvante, c'est pas vraiment un film d'épouvante, c'est plutôt de la tension, je sais pas comment dire ça.
Ouais, il y a des vrais.
Moments de stress, je sais pas comment
C'est un film d'ambiance.
D'ambiance, ouais. Voilà. Je trouve que l'ambiance marche bien, je trouve que l'humour marche bien, je me suis bien marrée. Justement,
le père est très drôle.
J'ai peut-être enfin compris ce que vous avez ressenti sur le film avec
sur Halloween.
Mmh. Je me suis marrée vraiment.
Pour moi, c'était pas le même genre d'humour.
C'est pas le même genre, mais je me suis marrée sur ce film, donc je trouve que j'ai pris plutôt plaisir à le voir. Après, dans le scénario pur, moi, j'ai pas mal de problèmes, notamment sur comment fonctionnent ces doubles maléfiques.
Moi, ce que j'appelle les marionnettes.
On va
expliquer, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, la mère, donc j'ai oublié son prénom,
Adélaïde,
découvre que sous terre, chaque humain a son espèce de double qui est marionnette. Et peu importe ce que tu fais dans la vie, ton marionnette va faire la même chose. Mais c'est-à-dire, si tu lèves un bras, il va lever un bras,
ta marionnette.
C'est-à-dire que si tu marches, elle va marcher. Si tu tournes à gauche, elle va tourner à gauche. Donc, du coup, c'est-à-dire que si tu couches avec quelqu'un, elle va coucher aussi avec cette personne. Et c'est pour ça qu'elle a les mêmes enfants qu'elle, ce qui pour moi ne tient pas, parce qu'on voit bien que les marionnettes, elles n'ont pas exactement le même mouvement. Donc, à mon avis, le sexe ne doit pas exactement être pareil. Et donc, sur un plan technique, à mon avis, ça ne peut pas être le même spermatozoïde et ça ne peut pas donner le même enfant. Mais bon, c'est un détail.
Ça, c'est un détail, mais effectivement, elles font la même chose, mais elles n'ont pas le même monde, ce qui veut dire qu'elles font semblant de manger, enfin, ils font des mouvements, ouais. Etc.
Et du coup, je crois qu'ils mangent des lapins.
Ils mangent des lapins, oui, mais quand ils font des mouvements pour manger une glace, ils n'ont pas de glace, donc ils.
Ah, mais d'ailleurs, j'ai bien dit penser, en fait, il se rase pas alors, en fait.
Oui, non, mais ça ne tient pas. Donc, voilà. Donc non, tout ce monde fictif ne tient pas du tout. Et en plus de ça, à partir du moment où ils sont montés sur Terre, en fait, on ne comprend pas. Surtout, en fait, pour moi, une fois qu'ils étaient sur Terre, ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils étaient indépendants.
Ah oui, là, ça, une fois qu'ils sont sur Terre, ils sont indépendants.
Bah non, ils ne le sont pas, puisque le fils tue sa marionnette en le forçant à reculer dans le feu.
Donc c'est le seul.
C'est le seul, oui, mais du coup, comment ça se fait que ça marche ?
Parce qu'il s'est concentré.
Parce qu'ils ont leur espèce de jeu du miroir qu'ils essaient dans le placard au début, tu sais.
Ah,
et donc pour moi, ils sont en train de jouer à ce moment-là.
Ils sont en train de jouer. Ok, pardon. Ok, j'accepte.
Mais de toute façon, cette histoire de marionnette est vraiment tirée par les cheveux. Je pense que le scénario.
Tirée par les fils ?
Oui. aurait vraiment gagné à moins expliquer.
Non,
quoi.
Mais exactement, parce que.
À rester dans la métaphore, parce qu'en plus, tout ce côté, justement, toute cette atmosphère terrifiante, et puis bon, on va parler du sous-texte, enfin, j'espère, que moi j'ai trouvé pour le coup intéressant. Hein.
Non, mais attends,
il aurait dû rester à ce niveau-là. Quoi.
Justement, pour finir sur le sous-texte, c'est que c'est vrai que si tu n'éteins pas ton cerveau sur l'explication qui ne tient pas, parce que ça veut dire qu'il y a la Terre entière qui tient dans ce toute petite
cave.
Non,
parce que c'est une expérience, ils expliquent ça à un moment, alors après je sais pas.
Mais quoi, c'est une expérience, c'est une expérience
du gouvernement qui n'a pas marché,
oui.
Et donc certaines personnes ont leur double, mais pas tout le monde.
Oui, mais apparemment, ils sont des milliers, alors pourquoi ils sont
ils sont des centaines de milliers. Regarde le plan final où ils sont sur l'espèce de colline, ils sont des milliers,
Ouais. Oui, on les voit en drone. On les voit. C'est pas juste un petit village.
Oui, c'est pas juste un petit village. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que justement, on voit la scène où il y a eu un échange, on en parlera après, mais le moment où elle marche, elle suit ses deux parents. Donc les mecs marchent dans la foire, donc elle marche dans sa petite cave. Mais c'est-à-dire que s'ils tournent à droite, elle se prend le mur. C'est fini pour elle.
Ça tient pas. Et pareil, ne serait-ce que...
moins de virages, c'est fini.
Il faudrait couper tout ça du film.
Les copains bourges de...
Ouais, les Tyler.
Des héros, là. Ils ont aussi leur manière lunette. Ils sont pas du coin. Donc, ça ne marche pas.
Il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup de choses très brouillonnes.
Dont une, excusez, il faut que je le dise. Parce qu'à un moment, quand il y a la méchante mère, Adélaïde Marionnette, qui vient et qui dit « Oui, toi, t'as eu une césarienne, c'était super bien. Bah, moi, j'ai dû m'ouvrir le ventre moi-même pour le sortir. » Bah non. Parce que le double du docteur, il devait être là aussi. Donc du coup, il t'a ouvert aussi.
Oui, mais peut-être qu'il n'y avait pas de couteau.
Oui, mais il avait des ciseaux. Mais il a mis clairement. Oui, parce que clairement, il trouvait des ciseaux partout. Mais donc ça tient pas.
J'ai pas compris le.
D'où sort ses tenues, d'où sort ses ciseaux.
Ah, parce que les ciseaux, à mon avis, c'est le symbole du double, tu vois. Oui, bien sûr. Comme ça.
Mais oui, les ciseaux, oui, c'est le double. Et puis c'est pour couper le lien, ça marche bien. Mais juste, il sort d'où. Et même ses tenues orange, d'où ils sortent. Parce que quand on les voit dans le passé, ils sont habillés pas du tout comme ça.
Ah, je m'en souviens plus.
Et surtout, cette.
Les tenues rouges, c'est. Alors, faudrait revoir le film, mais tu sais, au début, quand elle regarde des pubs à la télé, il y a justement une publicité sur la chaîne humaine de solidarité, là.
Ah,
et je crois que
les
tenues rouges viennent de ces personnages qui sont dans la publicité, mais.
Mais bah, bon, de toute manière, même cette entreprise gouvernementale qui a foiré, enfin, ils les ont laissés là, et il y a des lapins qui
auraient pu les tuer.
À profusion, qui arrivent pour les nourrir. Enfin, c'est extrêmement.
C'est vrai qu'ils ont une espèce de boîte à lapins.
Et puis ça doit pas être si économique que ça de leur donner des lapins à manger. Enfin, je pense qu'il y a moins cher pour les nourrir s'ils veulent vraiment les garder en vie, je comprends pas.
Bah, bon. ça se reproduit assez facilement des lapins.
Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Okay. Ils viennent de eux-mêmes, les lapins. Admettons.
C'est pour ça que le film aurait vraiment gagné à rester dans la métaphore et à rester dans une atmosphère.
Pour toi, ça nous dit quoi, ce message?
Oui.
Bah, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les personnages, qu'on suit, la famille, c'est des gens qui ont relativement réussi, les Tyler aussi. Et ceux qui viennent réclamer, finalement, enfin ceux qui sortent de l'ombre pour prendre leur place, finalement, on peut se dire que nous-mêmes, quelque part, dans le tiers-monde, il y a nos doubles qui fabriquent nos vêtements, qui fabriquent nos smartphones, qui recyclent notre amiante, et que ces gens-là aimeraient bien être à notre place. Et moi, ce sous-texte-là, j'ai trouvé vraiment intéressant, mais il aurait fallu rester dans la métaphore. Le film est trop long, déjà. Et en plus, il y a un gros ventre mou au milieu.
Je trouve pas. Alors, vraiment, j'ai trouvé le film très bien rythmé.
J'ai trouvé assez rythmé aussi.
Ah ouais. Bon, je me suis ennuyé. Je me suis un peu ennuyé au milieu.
Un petit peu aussi.
Non, mais moi, le sous-texte, moi, j'avais pas compris ça. Moi, je croyais que c'était plus basique que ça. Et c'était ta part d'ombre que t'essayes de cacher. Et là où je trouve,
connaissant Jordan Peele, oui, mais a priori, il y a un sous-texte social quelque part.
Oui, mais on le voit pas assez, je trouve, parce que du coup, en bas, il travaille pas pour eux.
Mais c'est pour ça le message est noyé dans des espèces d'explications qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Il aurait dû vraiment rester dans quelque chose de moins expliqué, quoi. Il faudrait couper 25 minutes de film, en fait.
Pour moi, vraiment, le côté, c'est vraiment basique, c'est faut affronter ta face d'ombre. C'est la petite fille, parce qu'elle dit au début, on dit ouais, j'ai arrêté de courir et tout ça, ça m'ennuie et tout. En gros, elle est feignante. Et pour échapper à son double, d'ailleurs, le sourire de la petite fille. Maléfique, incroyablement bien fait.
Oui, avec pas grand chose, hein.
Et ben, elle est obligée de courir. Donc, c'est t'as pas voulu courir, t'as pas voulu t'entraîner, t'es obligé de t'enfuir pour vraiment lutter contre ta fainéantise
mais du coup, c'est pas tiré sur tous les personnages du tout, quoi.
Bah, le père, un peu, parce que le père, c'est un peu un côté, alors, regardez, je suis un parvenu, j'essaye d'être à la hauteur. Toi, il est jaloux du mec blanc, il dit, ils ont une nouvelle voiture, ils ont fait ça. J'achète un bateau.
Il y a quand même cette image de la famille pas parfaite, mais vous voyez qu'elle a réussi. Et leurs voisins, c'est la même chose. Et c'est pas possible. Et quand justement la scène où ils racontent où leur double raconte tout ce qu'ils ont subi pendant que eux réussissaient, en fait, c'est impossible à mon avis de pas y voir une espèce de métaphore de classe quelque part. Quoi.
On va dire maintenant que tu me le dis, oui, clairement. Mais sur le coup, je l'ai pas vu, je t'avoue.
Et moi, ce qui m'étonne dans ce film, c'est que on est aux États-Unis quand même. Prenez des flingues et tirez-leur dessus. Pourquoi est-ce que tu t'embarrasses avec un tisonnier? T'as pas trouvé mieux pendant tout le film qu'un tisonnier pour te battre?
Alors, par contre, moi, juste pour donner quelque chose de positif, en fait, si on peut parler de la fin.
Ah oui, il faut qu'on parle du twist final.
Le twist est ridicule. Hein.
Le twist ne marche pas.
Alors, j'ai pas aimé le twist, mais je vous explique.
Ah, je l'avais pas vu venir.
Moi aussi, je l'ai vu venir tout de suite.
Moi, bizarrement, je l'ai pas vu venir.
Le twist, spoiler alert, c'est qu'en fait, l'héroïne était déjà en fait le double. Parce qu'elle est, elle s'est échangée étant petite.
Ouais, elle a déjà été remplacée.
C'est la marionnette qui a pris et qui a fait la belle vie. Et en fait, c'était la vraie fille qui était en bas avec les autres. Et ça ne marche pas parce que ça n'apporte rien. Enfin, on s'en fiche.
Parce que c'est pour ça qu'ils se rebellent, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelqu'un qui vient du monde d'en haut pour pouvoir sortir de l'ombre.
Je suis d'accord, mais à ce moment-là, il ne fallait pas le mettre à la toute fin, je trouve. Parce que
ça n'apporte pas le mettre
du tout. Oui, il fallait pas le mettre du tout. Ce que ça apporte rien, parce qu'en fait, si c'est pour qu'on manque d'empathie, qu'on se dise les enfants sont en danger, bah non, c'est toujours leur mère, c'est quand même leur mère. Ça ne change rien, en fait.
Non, et puis c'est tiré par les cheveux qu'elle est oubliée, quand même.
Non, alors moi, je suis pas d'accord.
Pour moi, ça tient pas. C'est une meuf, elle a vécu les 10 premières années de sa vie dans une cave. D'ailleurs, mais c'est même pas logique, ils devraient même pas avoir de cheveux, ils ne voient jamais le soleil, ils auraient dû mourir. Mais bref. Elle remonte, elle échange sa place. Évidemment, elle dit rien parce qu'elle est dans un monde où elle ne connaît pas. Donc, elle fait croire qu'elle est traumatisée, qu'elle est mutique. Donc, ça marche. Donc, du coup, ses parents disent, fais-tu de la danse et tout. C'est pas parce que tu fais de la danse que tu oublies 10 premières années de ta vie. Hein.
Moi, je pense, ça, je peux y croire parce qu'il y a plein d'histoires de par exemple, tragiques, de viols. Après, c'est pas pendant 10 ans, hein, mais des nanas qui sont violées assez jeunes ou avant 15 ans ou des choses comme ça. En fait, ça disparaît de leur mémoire et ça revient à 40 ans. Elles se souviennent. D'une nuit ou de...
Mais pas 10 ans.
10 ans de ta vie, c'est vrai que ça paraît un peu plus louche.
Je sais pas si elle se souvient pas, parce qu'au départ, au début du film, justement, quand elle essaie de dire à son mari, il faut qu'on parte, parce que là, je vois des signes, qu'elle comprend. Elle sait très bien ce qui se passe.
Mais non, elle dit plutôt en mode, il y a eu cette fille, j'ai toujours eu l'impression qu'elle me suivait, mais on a l'impression que c'est vraiment une espèce de...
Ah, pour moi, elle le sait sincèrement pas.
Pour moi, elle le sait sincèrement pas non plus.
Ah oui, c'est marrant, j'ai pas compris ça, moi.
Pour moi, elle le sait sincèrement pas, mais qu'elle a... Elle a toujours eu cette impression, elle s'est toujours sentie suivie, etc. Mais sans comprendre exactement pourquoi. Mais pour moi, sa réalité était vraie. Enfin, voilà. Mmh. Et non, mais par contre, ce que j'ai trouvé bien dans ce faux twist nul, c'est un peu bizarre, c'est que ça justifiait bien le pourquoi c'est la seule qui parle. Pourquoi, enfin, qui arrive à parler difficilement parce qu'elle n'a pas parlé depuis 20 ans.
L'autre l'étrangle en partant pour qu'elle puisse pas se plaindre aussi. Hein. Enfin, elle lui écrase le larynx.
C'est pour ça?
Moi j'ai compris ça comme ça, mais.
Ouais, enfin ça te trop mal. Mais j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'elle attend 30 ans pour sortir?
Je sais pas non plus.
Si tu pouvais sortir à tout moment, sors. Et d'autre part, je veux dire, l'entrée du monde souterrain, c'est une attraction. Je voudrais me faire croire que personne.
Oui, mais ça c'est.
Personne n'est rentré dans ce miroir des glaces.
C'est pour ça qu'il faut rester dans la métaphore, tu vois, et pas chercher du réalisme.
Ouais, mais d'un côté, s'il y avait une métaphore, j'aurais été frustré. J'aurais dit, ah mais le feignant, il a même pas trouvé une explication. Au moins, il en donne une. Pour moi, elle tient pas debout, mais bizarrement, je préfère une explication qui tient pas debout que pas d'explication
chose que soit.
En fait, j'aurais préféré que ce soit juste sur cette famille, en fait. Sur elle, une seule, par exemple, quatre qui ressortent, une personne avec une part d'ombre, je pense que ça pouvait peut-être mieux marcher que toute la Terre, où tu es obligé de partir sur. Ou un petit groupe, un petit village, justement, quelque chose de très, très, très petit,
mais foutu,
quoi. Et avec des mecs qui les gardent, entre guillemets, qui expliquent pourquoi.
Et sans qu'on sache d'où viennent ces personnages, est-ce que c'est une projection de leur inconscient, est-ce que finalement ça marche aussi, le fantastique, l'horreur, c'est quelque chose qui surgit dans ta vie sans forcément que tu saches d'où ça vient, ou alors ça vient de.
Mais effectivement, à ce moment-là, t'enlèves la backstory où elle raconte quand t'avais ça, j'ai dû faire ça, ou j'ai rien mangé. Elle dit juste. C'est vraiment la part d'ombre à ce moment-là.
Ouais, même si j'ai bien aimé la réplique du père, parce que quand la fille disparaît, il l'amène chez un psy. Elle dit être traumatisée, forcément, elle s'est échappée pendant 5 minutes, elle n'a pas fait le Vietnam non plus. Même si c'est les pires parents du monde. Hein, parce que la mère dit, je vais aux toilettes, surveille la gamine, il est en train de jouer au jeu de la taupe. Mais évidemment, quand tu joues de la taupe, t'es concentré, enfin, ça me paraît évident. Non, on s'en fiche pas. Déjà, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces parents pourris, quoi. Et puis personne, enfin, comme je dis, personne n'est rentré dans cette attraction en 30 ans, mais c'est pas possible.
Et j'ai une dernière critique, c'est ce message qu'ils veulent faire porter en faisant la chaîne tout autour du monde. Moi, ça m'échappe.
Ils vont se faire buter,
À part que c'est sur le t-shirt, je comprends pas leur intérêt. Et pareil, pourquoi ils tuent leur double? Parce que. Pourquoi ils tuent pas leurs créateurs gouvernementaux?
Oui, non, mais c'est vrai.
Eux, leur double, s'ils étaient au courant de leur existence encore, mais.
Pour moi, c'est pour prendre leur place, mais c'est vrai que c'est pas...
Clairement pas. Non, mais je suis d'accord, moi, que Adelaide veut se venger, elle a une vraie raison.
Oui.
Mais que... Et d'ailleurs, en plus, elle fait l'erreur que font tous les méchants dans les films, c'est au lieu de les tuer directement, comme la famille de Blanc qui se fait tuer en 4 secondes chrono, non, elle veut les faire souffrir. Donc elle fait l'erreur classique de « je vais t'expliquer mon plan, et c'est comme ça que tu vas réussir à t'en sortir ». Mais elle a une vraie raison de les tuer. Les autres, si c'est pour se montrer et tout, parce que je peux comprendre qu'ils disent « Ouais, on en a marre de vivre dans une cave depuis 30 ans, laissez-nous vivre. » Je peux comprendre, mais enfin, quel intérêt de tuer des gens? On va vous enfermer, voire vous tuer. Hein. Donc c'est stupide comme plan de tuer tout le monde. Même si, je trouve bien que c'était une bonne surprise. Quand au début, d'ailleurs, elle est super cette scène, où ils voient la première famille qui se tient la main et qui est devant leur...
C'est super, c'est hyper drôle.
Qui est hyper drôle et qui dit « Non, non, mais je n'appelle pas la police et tout, je vais mettre mon froc et tout. » Puis il y va, puis bon, qui appelle la police. Et que la police dit « On est là dans 14 minutes. » C'est tellement précis que je me suis dit, ah, et en fait la police vient pas. Je dis, oh, comme par hasard, la police n'est pas venue. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une bonne surprise, c'est que toute la ville, ils ont un double. C'est-à-dire que la police aussi, ils ont dû voir débarquer leur double.
Oui, et puis les déborder, tuer. Hein.
Déborder, oui. Ouais.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, alors tour final sur ce film, Cédric ?
Ben, j'espère qu'il y aura une director's cut. On pourra en revenir. Ça va être le mot aujourd'hui. Tout le monde attend on va tous attendre les versions director's cut de ces films.
Oui.
Mais après, il y a des choses très réussies quand même. Voilà. Dans les mises en ambiance, l'écriture des personnages, effectivement, le mélange horreur-humour marche plutôt bien au départ. Donc, ouais, je pense que ça se regarde quand même.
Ok. Fiona ?
Bah, c'est marrant, j'ai le même sentiment qu'avec Get Out. Dans le sens où.
Il avait 5 fois plus de budget que pour Get Out, et je pense que ça l'a pas poussé à être créatif. Voilà.
Mais dans Get Out, j'ai eu un peu la même sensation. En fait, pour moi, dans Get Out, quand ils ont fait les transplantations de cerveau, ils m'ont perdu. Ça allait trop loin.
Ouais, mais c'est juste la fin.
C'est juste. Voilà. En fait, c'est un peu pareil dans le sens où. Ah, ils sont allés en souterrain, on voit ce monde, ils m'ont perdu.
Ouais, je comprends.
C'est le pas de trop. Non, moi, je préférais que ce soit. Bref, ça va trop loin. Faut pas trop se poser de questions, et c'est dommage parce que je pense que c'est un réalisateur qui veut qu'on se pose des questions.
Il faut les poser intelligemment, mais sans fournir trop d'éléments, à mon avis.
Très bien résumé.
Moi, je me pose des questions. Je veux bien me poser des questions dans la thématique, mais pour me poser des questions justement sur cette thématique, faut que j'ai pas à m'en poser au niveau du scénario. Donc voilà, mais divertissant et ouais, ça m'a quand même ça m'a bien plu.
Ah, ça fait peur. Hein. Moi, il y a des passages où
ah oui, non, moi aussi marche, j'avais peur. Hein. Le début, j'ai repensé, je dormais pas bien.
Moi, c'est bizarre parce que je m'attache beaucoup au scénario, parce que la réalisation, j'y connais rien. Scénaristiquement, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi, et pourtant, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai pris vraiment mon pied à le regarder, je me suis marré. S'il y avait de la tension, j'ai pas eu peur, faut pas déconner, mais j'avais hâte de savoir la suite. Et la salle, bon, peut-être j'ai vu au hall, mais la salle était déchaînée et se marrait à chaque blague du
aussi,
père, c'était vraiment bien. Même si j'étais très, très, très frustré à un moment du film, c'est quand les blancs se font tuer. Et qui a dit « Alexa, appelle la police » et passe « fuck the police ». Mais non, il fallait passer « every breath you take » de police, parce que c'était exactement le thème. Et je me suis dit « mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ?» Et donc, du coup, je me suis chanté la chanson dans ma tête. Voilà.
Et juste en parlant de ça, juste le thème, la musique, génial.
Ah oui, ouais. Oh, la musique est très très bonne.
Incroyable, j'ai vraiment adoré la musique.
Les deux recommandations de la semaine, Cédric ?
Alors, moi, je vais recommander Bumblebee, à ma grande surprise, hein, qui est le spin-off de Transformers, un film de Travis Knight que j'ai plutôt apprécié, alors que je n'apprécie pas spécialement la licence Transformers. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, et que le personnage féminin, en particulier, était très bien écrit. Voilà.
Très bien, Marie ?
Alors moi, j'aimerais recommander la série Formula One Drive to Survive, qui est une série documentaire sur Netflix, 10 épisodes de 30 minutes, et qui suit la saison 2018 de Formule 1 dans le monde. Je peux vous assurer que j'en ai absolument rien à taper de la Formule 1, et pourtant, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. On suit les pilotes, on suit les responsables d'écurie à travers toute cette année dernière, et avec des retournements de situation, des trahison, des coups de couteau dans le dos, enfin, c'est absolument épique, c'est haletant, et je peux vous dire quelque chose, j'attends la saison 2 avec impatience.
C'est sur Netflix, hein ?
Tout à fait.
Fiona ?
Moi, je vais vous recommander sur Netflix également Afterlife, qui est la série écrite, réalisée, je crois aussi, et avec Ricky Gervais, le pitch, c'est un type qui a perdu sa femme qu'il aimait éperdument, et du coup qui en a plus rien à foutre en fait de la vie, et qui du coup est sans filtre. Et même si c'est pas un spoiler, mais la fin est un peu guimauve, mais c'est souvent le cas avec Ricky Gervais, voilà, ça va se finir bien. Il y a des très très bonnes répliques, c'est drôle, et il y a des moments très très impertinents qu'on voit pas souvent, voire jamais à la télé. Voilà, quelques petits moments comme ça. C'est très chronique. C'est 6 épisodes, donc c'est un peu court.
6 épisodes de combien de temps ?
De une demi-heure.
Ah oui. Ouais.
Mais ça vaut le coup. Voilà.
Et ben moi, vu qu'on est dans la nostalgie avec Dragon Ball, je vais recommander le remake de Resident Evil 2, qui était le jeu Capcom sorti en 1998, qui a été mon premier Resident Evil. J'en garde un souvenir extraordinaire et j'avais hâte de jouer ce remake. Et ben j'ai pas du tout été déçu parce qu'ils ont réussi très intelligemment à garder le scénario qui est quand même nanardesque, on va le dire, mais ils ont réussi à nous surprendre tout en gardant la nostalgie. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'ils nous amènent dans le commissariat, mais on passe pas par le même endroit. Moi qui connais le jeu par cœur, je me suis dit, je vais filer le jeu comme une flèche, mais non, ils nous amènent dans des nouveaux endroits. La caméra est passée comme Resident Evil 4, c'est-à-dire derrière le dos, et surtout, c'est tellement dur. J'ai avant les zombies, 2-3 balles, tu les tues là, il faut 6-7 balles pour les tuer en tirant dans la tête. Et ils ont fait ça, donc esprit du coup, on est obligé de tirer dans les jambes pour qu'ils tombent par terre, pour les enfuir, et on passe plus son temps à se cacher qu'à tuer des zombies, et c'est une vraie réussite.
Comme dans le jeu original, hein, je me souviens que je me planquais tout le temps.
Oui, mais dans le jeu original, on pouvait tuer les zombies quand même assez facilement. On manquait rarement de munitions. Là, on manque de munitions, on manque de moyens.
Cédric.
Parce que je vise très mal, ça c'est sûr.
Bah surtout dans les jeux originaux, c'est assez dur de viser, là c'est un peu plus dur. On s'arrête là, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.